l'émission de l'économie en question avec un retour ce matin à l'actualité en France après la longue période électorale. Un nouveau gouvernement est formé depuis le début de la semaine, il s'est mis au travail. Question, dans quel état trouve-t-il la France en ce milieu d'année et surtout, sur quelle conjoncture, bonne ou mauvaise, pourra-t-il s'appuyer au cours du quinquennat pour engager ses réformes? Eh bien plutôt bonne à en croire les dernières prévisions de l'INSEE qui annonce une progression du produit intérieur brut à de 1,6% cette année et même davantage les années suivantes, bien meilleures en tout cas que les 5 années qui viennent de passer. Pour mémoire, la croissance était carrément nulle en 2012, première année du quinquennat de François Hollande, et elle n'était que de 1,1% l'an dernier. L'activité repart donc en France comme ailleurs en Europe et dans le monde, et même un peu plus tard et un peu moins vite que dans d'autres pays, mais elle repart. Dans ce contexte relativement optimiste, Emmanuel Macron et son gouvernement proposeront à l'automne un texte de finances publiques avec leurs orientations budgétaires et macroéconomiques pour ces 5 prochaines années. Alors quels seront les secteurs les plus porteurs? Dans quelle mesure pourront-ils profiter de ce climat plus favorable? C'est notre sujet ce matin. D'où viendra la reprise attendue pour l'économie française? Et nous recevons Élise Huillery, professeure à l'Université Paris-Dauphine, Xavier Timbaud, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques, et Thomas Grébin, économiste au CPI, le Centre d'études de prospective d'information internationale. CPI. Enfin, en fin d'émission, la chronique de Marie Bélan, journaliste aux Échos, notre partenaire aujourd'hui pour l'économie en question. Et votre séquence en fin d'émission, c'est elle qui donnera le premier chiffre. Venez avec un chiffre, on verra lesquels vous avez choisi. C'est bien l'économie en question. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. C'est donc les chiffres avancés par l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, pour cette année. Et il faut ajouter que cela n'avait pas été vu en France depuis 2011, donc juste avant le précédent quinquennat. Une croissance solide, nous confirme-t-on, depuis 2 trimestres. L'OFCE, d'ailleurs, je regarde Xavier Timbaud, tablé aussi sur des chiffres un tout petit peu moins optimistes, mais pas très loin, hein, c'est près de tout ça. Et si ces prévisions se réalisent, l'activité va donc progresser à un rythme même plus élevé que celui qui avait été prévu par la loi de finances proposée par Michel Sapin, le dernier ministre de l'économie et des finances. C'est cela qui est tout à fait intéressant. Donc ce PIB, pour Michel Sapin, on avait parlé de 1,5. Et ce sera mieux, sans doute. L'année dernière, le PIB avait très très peu progressé, comme je l'ai dit. Donc question, Emmanuel Macron est-il chanceux, comme on l'avance beaucoup? Manu Lachance, titré Libé il n'y a pas si longtemps. Il est vrai qu'il tombe plutôt bien. Ou bien avez-vous quelques réserves d'entrée sur ces chiffres plutôt réjouissants? Il y a des nuances à apporter, je crois, assez vite. Qui veut commencer? Xavier Timbaud.
Oui, donc Emmanuel Macron est-il chanceux?
Merci Xavier de faire remarquer mes lapsus.
Il y a incontestablement un retournement du sentiment, en tout cas. C'est ça qui est assez spectaculaire.
Mais il paraît que c'est très important en économie.
C'est très important, mais effectivement, on se rend compte à quel point c'est très important.
Ça a été étudié par des Nobel, même.
Parce que la dernière note de conjoncture de l'INSEE s'appelle « croissance robuste », alors que leur révision de prévision est relativement modeste. Vous citiez le chiffre, par exemple, du projet de loi de finances 2017 qui avait été donné par Michel Sapin en novembre 2016, qui était de 1,5. Donc là, on est passé à 1,6, donc c'est un dixième de point. Je pense qu'on en parlera en fin d'émission. Simplement, la mesure de la croissance économique est déjà en soi un sujet de débat. Et donc, un dixième de point, oui. À ce stade, on est très loin de quelque chose de significatif. Mais par contre, on voit bien que le commentaire s'inverse complètement et que quand on regarde à ce moment-là tous les indicateurs, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont effectivement plutôt positifs. Toutes les enquêtes auprès des ménages, le climat des affaires, auprès des entreprises, quels que soient les secteurs, sont en grande voie d'amélioration. Les créations d'emplois sont aussi sur des niveaux très élevés. Et devinez quoi, même le chômage baisse. Et même d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il a commencé à baisser il y a déjà quelques trimestres, et donc que François Hollande, finalement, avait remporté son pari, puisqu'effectivement, il y a une baisse du chômage.
Et
donc,
on est dans Mais c'est ce gouvernement qui profitera de l'annonce régulière et assez plombante, il faut bien le dire, quand elle est mauvaise, des chiffres du chômage.
Exact.
Là, ça devrait très régulièrement nous indiquer une hausse.
Voilà, alors bon, il y a un petit détail sur est-ce qu'on regarde le chômage au sens du Bureau international du travail, ou est-ce qu'on regarde les demandes d'emploi en fin de mois. La nouvelle ministre du Travail a dit qu'elle ne commenterait plus les chiffres des demandes d'emploi en fin de mois, ce qui est une décision, je pense, intelligente, qu'il faut saluer, parce que ça a été quelque chose qui a rajouté plus du bruit à l'analyse de la conjoncture française qu'autre chose. Mais donc on a plutôt une situation favorable. Maintenant, il faut, enfin, vous l'avez aussi rappelé, c'est très important, il faut comparer ce 1,6 qu'on prévoit pour l'année 2017, au fait que en 2011, c'était après la crise de 2008, on avait eu une croissance qui avait été significativement plus élevée, à plus de 2%. Donc par rapport à ce qui s'est déjà passé, même après la crise, on reste dans des rythmes de croissance qui sont modestes, avec une baisse du chômage qui est aussi extrêmement modeste, puisque l'INSEE le voit à la fin de l'année 2017 à 9,4%. Ce qui est une incontestable amélioration de la situation, mais qui ne va pas nous sortir de la situation de chômage élevé.
Et on va très vite comparer avec d'autres pays européens, je l'ai mentionné rapidement. Élise Huillery, vous me disiez avant de commencer, pourquoi dites-vous, d'où viendra la reprise, elle est là?
En fait, elle est à la fois là, effectivement, je pense que, comme l'a souligné Xavier Timbaud, finalement, les mesures qui ont été prises par le gouvernement précédent, au moins pour les trois dernières années, ont finalement porté leurs fruits en termes d'investissement. Donc les entreprises ont retrouvé leurs marges. On a vu une hausse importante de l'investissement et ça en est la conséquence. Donc il y a une situation chanceuse pour Emmanuel Macron. Maintenant, je pense qu'on peut aussi, même si tout n'est pas absolument renversant de bon sens dans ce qu'il propose, on peut aussi reconnaître certaines mesures qui vont aller dans le sens de cette reprise, en tout cas qui ne vont pas la casser, notamment sur la question de l'emploi, où là on voit bien, et c'est la première fois qu'il y a ce discours vraiment très affirmé, qu'Emmanuel Macron sent que un investissement très très important dans l'augmentation des compétences des travailleurs, la formation professionnelle est nécessaire, allié avec un allègement du coût du travail sur les basses qualifications qui a déjà été dans le précédent quinquennat, mais qui va être... Vraiment, on va avoir une suppression totale des charges au niveau du SMIC. Et ça, on sait qu'à chaque fois que c'est le cas, qu'il y a une baisse des charges, ça augmente un petit peu l'employabilité des moins qualifiés. Et donc là, le fait qu'il continue finalement dans une forme de cohérence, après avoir fait quelque chose qui a encouragé l'investissement pour les entreprises, d'aider vraiment à l'augmentation de la montée en compétences des salariés par la formation professionnelle et la baisse du coût du travail, ça paraît... effectivement le bon complément. Après, on aimerait plus de choses, mais on pourra en débattre un petit peu plus sur la demande des ménages. Alors évidemment, l'emploi, c'est le facteur principal du pouvoir d'achat et de la demande. Donc finalement, accélérer, aider l'emploi des moins qualifiés, c'est réduire la pauvreté, c'est favoriser la demande, en tout cas pour les ménages les plus modestes, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de mesures qui vont plutôt dans le sens du pouvoir d'achat des plus riches. Et ça, effectivement, on ne voit pas bien la logique en termes de soutenir la reprise économique. Oui, mais bon, je pourrais y revenir un petit peu plus tard.
Absolument. Vous mettez en avant les réformes de l'éducation et de la formation professionnelle.
L'apprentissage et la formation. Et 15 milliards dans la formation professionnelle, effectivement, pour vraiment augmenter les compétences des moins qualifiés.
Je rappelle, et je dirais que vous avez beaucoup travaillé sur la pauvreté, pas seulement en France, que vous continuez d'ailleurs... Thomas Grébin.
Oui, donc je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je serais peut-être un petit peu plus pessimiste sur la solidité de la reprise. Pour moi, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a des incertitudes au niveau national. On ne sait pas exactement encore ce qui va être fait. Et je pense que, notamment l'année dernière, on peut rappeler qu'au même moment, les prévisions de l'INSEE étaient aussi très optimistes. Et malheureusement, il y a eu les attentats. Ouais. Et donc, ce qui a plombé...
Il y a des événements extérieurs.
Des événements extérieurs. Et quand vous avez une croissance qui est fragile, vous êtes à la merci de ce type d'événements extérieurs. Sur le plan fiscal aussi, quand vous avez une croissance fragile... En France, c'est un modèle de croissance qui repose beaucoup sur la consommation. Et donc, c'est très sensible au type de mesures fiscales qui peuvent être prises. Donc, si par exemple, si vous augmentez la CSG, vous pouvez avoir potentiellement un effet négatif sur la consommation. À l'inverse, si vous baissez...
Mais vous rendez du pouvoir d'achat par ailleurs. Enfin,
oui, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pour l'instant, il me semble que tous les paramètres ne sont pas connus. Et donc, il y a quand même de l'incertitude. D'autres, si vous baissez à l'inverse la taxe d'habitation, vous pouvez espérer avoir un effet positif sur la consommation. Donc, il y a cette incertitude au niveau national. Il y a aussi une forte incertitude au niveau international. Donc, l'élection de Macron a pu rassurer beaucoup de gens, notamment au niveau européen ou international, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'aléas au niveau américain. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Si la croissance va mieux en France, c'est aussi parce que notre balance commerciale pèse
alors,
un peu...
Alors, c'est un des chiffres, c'est un voilà. des montants, enfin, c'est une des raisons avancées, effectivement, par l'INSEE, hein, dans ces tout derniers...
Ça pèse moins négativement sur la croissance, mais ça pèse quand même négativement, notamment... Parce que, enfin, pourquoi ça va mieux? Parce que les émergents sont repartis et donc ils ont repris leurs importations. Mais là aussi, on ne sait pas exactement ce qui va se passer en Chine. Il y a des menaces en Chine, notamment au niveau du système bancaire. C'est une économie qui est dopée par le crédit. Ouais. Certains disent par des bulles immobilières. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer et ça. Ça fait pour moi que la croissance est assez incertaine en France, notamment parce que le moteur de cette croissance française, pour moi, c'est pas clair. Est-ce qu'on va vers un modèle allemand tiré vers l'exportation? À mon avis, on en est très loin. Or, traditionnellement, la croissance française était tirée par la consommation. Or, le gouvernement, pour l'instant, ne semble pas...
Alors justement, je voulais revenir sur cet aspect commerce extérieur. En clair, si on vous entend bien, Thomas Grébin, c'est pas parce que nous sommes devenus meilleurs dans nos exportations ou dans notre... peut-être agressivité commerciale, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est plus parce que le contexte mondial lui-même est meilleur. D'accord avec cette analyse les uns les autres, Xavier Timbaud ?
Oui, tout à fait d'accord. J'aurais quand même revenir sur cette histoire d'incertitude que Thomas évoquait. Notre dernière prévision, donc, qui date un peu puisque c'était à l'automne... c'était au printemps...
Celle de l'OFCE, vous voulez dire ?
2017, celle de l'OFCE, s'appelait la routine de l'incertitude. C'est-à-dire que, oui, on vit dans un monde incertain, il y a tous les éléments que Thomas Grébin a cités qui sont extrêmement importants. Trump introduit une incertitude sur les relations commerciales qui est massive. Le Brexit constitue un élément d'incertitude aussi majeur. Et on voit que d'ailleurs, ça commence à peser sur la conjoncture anglaise assez significativement avec cette négociation qui s'engage mal, en tout cas, et puis où on se rend compte qu'en fait les Anglais savent pas très bien où ils vont. Et ça, c'est caractéristique de l'incertitude quand on ne sait pas où on va.
Même si, Emmanuel Macron, c'est hier ou avant-hier, a insisté sur le fait qu'il voulait davantage parler de l'avenir de l'Europe que des discussions sur le Brexit. Il l'a cité. Pas comme une priorité.
Mais sur l'incertitude, quand même, il y a un économiste qui s'appelle Bloom qui a tenté de quantifier l'incertitude. Ouais. Donc, il utilise une méthode assez originale qui consiste à regarder dans les publications des journaux, dans les articles, l'occurrence d'un certain nombre de mots qui sont associés à l'incertitude, et de s'en servir comme un indicateur d'incertitude. Eh ben, quand on prend cet indicateur-là, on est en fait aujourd'hui à un niveau d'incertitude qui est faible, de façon assez surprenante, beaucoup plus faible que ce qu'il n'a été, par exemple, en 2008-2009, parce qu'il faut se rappeler du contexte. On était au bord de l'effondrement du capitalisme, et avec des niveaux d'incertitude qui étaient majeurs. Ou au moment où il y a eu des pics, par exemple, dans les relations géopolitiques entre l'Iran et les États-Unis, entre l'Iran et Israël, où là, on était au bord de la Troisième Guerre mondiale. Donc, avec là aussi un ressenti d'incertitude qui était maximal. Et en fait, les incertitudes qu'on a aujourd'hui sont presque des incertitudes ordinaires. On vit dans un monde qui n'est pas un long fleuve tranquille.
Oui, c'est pas tout à fait ce que nous décrit Thomas Grébin quand même. Il avait l'air plus inquiet que vous le dites.
On peut, quand on n'est pas face à un long fleuve tranquille, être inquiet. Mais je pense que ça, c'est une inquiétude qui est un peu structurelle et qui n'empêche pas nécessairement les investisseurs d'investir, les innovateurs d'innover, les employeurs d'employer, et donc qui n'empêche pas une économie de fonctionner.
Parce qu'en fait, Thomas a donné la réponse en même temps qu'il s'est un petit peu contredit. C'est-à-dire que finalement, on a un modèle, nous, de croissance française qui n'est pas extrêmement exposé à ces incertitudes chinoises, américaines, même si effectivement on a une économie relativement ouverte, mais finalement notre modèle de croissance, il est extrêmement centré sur la consommation intérieure et sur la zone euro. Et là, on est sur la zone euro et la croissance intérieure, on est plutôt sur des éléments rassurants, positifs, avec moins d'incertitudes que ces éléments Brexit, Trump et la Chine. Donc effectivement, on n'a pas de raison. La reprise va venir de l'intérieur et la reprise va venir de la zone euro, donc plutôt proche de chez nous que de ces éléments lointains.
Alors Thomas Grébin, avec un petit accent sur l'immobilier que vous connaissiez bien, on nous dit toujours qu'il est central dans les reprises économiques. Ou les chutes.
Pour rebondir, je suis évidemment pas en désaccord avec ce qu'elle dit, mais je pense que cette incertitude joue pas de la même façon quand vous avez des gains de productivité importants ou une croissance forte et dans un contexte où vous avez quand même une reprise qui est très fragile. C'est-à-dire que le moindre choc, lorsque vous avez une croissance faible, a un impact plus fort que si vous êtes sur des sentiers de croissance autour de 2-3%. Ça joue un peu différemment. Alors sur l'immobilier, c'est vrai que... Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une reprise forte des permis de construire, de la construction. Et donc, justement, on peut se demander, et on voit que ça joue, alors que ça jouait jusqu'en 2015, c'était la construction, l'investissement des ménages était une contribution négative à la croissance en France. Ça recommence à jouer positivement sur la croissance et sur l'emploi. Mais là aussi, on peut se demander, c'est quoi comme type de modèle? C'est-à-dire, on voit aussi également en Espagne, on voit qu'il y a un boom à nouveau de la construction. Et donc, ce qu'on peut craindre.
Attention à la bulle, oui, on l'a déjà connu.
On n'est pas à nouveau dans une bulle, mais quand même, on peut se demander. On a beaucoup parlé ces derniers temps du CICE, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que est-ce que c'est surtout le CICE qui marche, ou est-ce que c'est par exemple les mesures qui ont été faites à la fin du quinquennat Hollande pour essayer de booster la construction? On voit que ça aussi, ça semble avoir donné des résultats.
Vous parlez toujours d'une offre de logement insuffisante, comme vous l'aviez étudié il y a 2 ou 3 ans. Là, je suis retombé sur un de vos articles. C'est un des problèmes français.
Moi, je n'ai jamais été convaincu qu'il y avait une offre de logement insuffisante au niveau français.
Oui, c'est ça, vous l'aviez étudié à l'époque.
Je pense qu'il peut y avoir certaines zones dans la région Île-de-France où, en effet, on peut parler d'un problème d'offre, mais je ne pense pas qu'au niveau français, notamment la hausse des prix qu'il y a eu dans les années 2000, s'explique quand vous avez dans certaines mêmes campagnes des prix qui doublent.
On n'est pas dans une tension au niveau national.
Je pense pas que ça s'explique comme ça. Je pense qu'il y a en effet des phénomènes plus spéculatifs qui expliquent que vous avez un cycle financier, un cycle immobilier qu'on retrouve à peu près dans la plupart des pays de l'OCDE. C'est-à-dire le boom immobilier que vous avez eu en France, vous avez eu la même chose au Royaume-Uni, en Espagne, en Irlande, aux États-Unis. Et donc je pense que c'est des phénomènes macroéconomiques plus généraux que simplement une pénurie d'offres au niveau local français.
Oui, juste un chiffre, hein, l'investissement en particulier dans le logement devrait progresser solidement, là encore, robuste, solide, on entend beaucoup ces adjectifs en ce moment, comme le faisait remarquer Xavier Timbaud, de 3,7%, la hausse serait la plus forte depuis 2006. C'est quand même très, très significatif. Élise Villery.
Je voudrais souligner les points qui me paraissent plus à risque dans ce que va nous proposer le gouvernement par rapport à la reprise économique. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des éléments positifs sur la formation professionnelle, sur la baisse du coût du travail, sur le pouvoir d'achat grâce à la suppression de la taxe d'habitation. Donc ça a l'air de soutenir ce qui est déjà enclenché. En revanche, et je pense que c'est important qu'on ait ces points de débat entre nous, il me semble qu'il y a des risques, comme on parlait de ces effets de confiance, qui sont extrêmement importants pour soutenir la croissance, avec un côté un peu irrationnel finalement, mais à un moment, quand tout le monde a confiance, les choses repartent. Ce qui pourrait casser cette confiance, c'est premièrement cette idée d'assouplir le marché du travail, où on ne voit pas bien d'où ça sort. On a l'impression, d'ailleurs il y a une enquête de l'INSEE très intéressante que vous avez peut-être vue auprès de 10 000 chefs d'entreprise qui montre que finalement l'assouplissement du marché du travail...
Ce qui compte pour eux, ce sont les commandes.
C'est les commandes, donc la demande. Donc il faut vraiment axer les choses sur la demande. Après, il y a le coût du travail et justement les compétences des salariés. Donc on voit bien que dans les mesures que je soulignais tout à l'heure, ça va dans le bon sens par rapport aux demandes des chefs d'entreprise. Cette histoire d'assouplissement du marché du travail, ça pourrait casser cette confiance et ne pas apporter vraiment de soutien à l'embauche pour les entreprises. Et il y a un deuxième élément qui me paraît peut-être à risque sur la confiance des Français, c'est cette fiscalité extrêmement avantageuse pour le gros patrimoine financier, à la fois sur la détention de patrimoine, on l'a vu avec cet impôt sur la fortune immobilière qui va donc maintenant exonérer le patrimoine financier, et puis cette taxation à 30% des revenus de l'épargne, alors que les revenus du travail sont taxés jusqu'à 45% en taux marginal. Donc on voit pas bien pourquoi il y a cet effort qui est fait envers ceux qui détiennent le plus de capital financier, alors que ce sont des gens qui vont consommer essentiellement à l'étranger ou qui vont épargner, ce qui n'est pas en faveur de la demande et de la reprise économique.
Un mot sur la fiscalité, j'aimerais vous entendre les uns les autres, Xavier Timbaud, Thomas Grébin.
Bah, sur la fiscalité, Thomas et Élise ont abordé un certain nombre des points, c'est-à-dire que alors
ça va, sur les réserves d'Élise notamment, ils font le délit.
Oui, sur les réserves d'Élise, sur la fiscalité, donc ça changera pas l'année 2017 hein, quand même pour rassurer les auditeurs. Pour le moment, pas pour le moment d'ailleurs, aucune de ces mesures ne jouera à partir de 2017. Certaines joueront à partir de 2018 et peut-être pas toutes, puisque le ministre de l'économie dans une interview au Figaro avant-hier a commencé à annoncer un certain nombre de déplacements dans le calendrier des mesures. Donc les choses vont pas forcément se passer aussi vite que ce qui était annoncé. Mais le schéma est assez clair. Il y a une baisse de la taxe d'habitation, il y a une bascule de la CSG, donc avec une augmentation de la CSG et une réduction des cotisations sociales qui va peser sur le pouvoir d'achat des retraités au bénéfice quand même des actifs.
Et qui va avantager, proportionnellement,
les ménages modestes.
Avantager, plus on gagne, plus on y gagne. C'est-à-dire en termes, ça va avantager les salariés.
Ça va être un gain proportionnel.
Ça va être un gain proportionnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un revenu du travail modeste de 1500-2000 euros va gagner beaucoup moins que quelqu'un qui gagne 4-5 000 euros.
Ce qui n'est pas le cas de la taxe d'habitation. Mais c'est en termes de redistribution, effectivement, ça c'est juste. Les retraités aisés vont plus payer que les retraités modestes, mais il y a effectivement cet effet. La taxe d'habitation.
Ils ne sont pas du tout concernés. La taxe d'habitation en plus risque de ne pas les atteindre parce que 80% c'est.
Les propriétaires.
Je parle des propriétaires. Oui,
si en partie quand même. Un certain nombre de retraités vont se retrouver exonérés de la taxe d'habitation. Donc, mais là, c'est quand même concentré sur les classes intermédiaires. Et puis, il y a cette fameuse réforme de la fiscalité du capital qui est encore un petit peu...
Un peu flou
dans ses contours, exactement, mais qui conduirait à un abaissement des taux sur les revenus du capital, en particulier des revenus du capital non immobiliers, puisqu'il faudrait y ajouter au prélèvement forfaitaire unique, il faudra lui ajouter la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune avec l'exemption des valeurs mobilières dans cet impôt, avec là effectivement un fort effet qui va être concentré principalement sur le dernier centile de la distribution des revenus. Le discours du gouvernement là-dessus est de dire, en fait, les précédentes réformes de la fiscalité du capital ont conduit à des taux qui sont trop élevés, ce qui est en partie juste. Et donc, cette réforme consiste à revenir dessus pour revenir avec une fiscalité normale, en particulier sur les capitaux mobiles.
Mais en l'occurrence, c'est une fiscalité anormale au sens où ils seront moins taxés. Quelqu'un qui gagne 120 000 euros grâce à des dividendes, du patrimoine, etc., sera moins taxé que quelqu'un qui gagne 120 000 euros de son travail. Donc c'est quand même, au lieu d'avoir fait une assiette élargie, un impôt progressif beaucoup plus simple, on rediscrimine entre revenus du travail et revenus du capital en donnant un avantage énorme aux revenus du capital.
Sur ce point important, la doctrine auparavant avait été d'égaliser les revenus du travail et du capital, mais il y a une objection qui est la question de la double imposition. C'est-à-dire qu'en fait, le capital, c'est le résultat de l'épargne, et donc c'est au départ un revenu du travail qui est taxé une fois, qui est épargné, et donc il n'y a pas de raison de le taxer une deuxième fois. Alors ça se discute parce qu'il y a des tas d'éléments. Et puis il y a le deuxième point que Élise souligne et qui est tout à fait juste et qui est assez peu commenté, c'est qu'on va passer d'un système dans lequel on aura une taxation progressive des revenus du travail, donc qui peut paraître assez juste, et qui était aussi une taxation progressive des revenus du capital, en particulier avec l'ISF, à un système dans lequel les revenus du capital vont être avec une flat tax, strictement proportionnel, avec un taux probablement autour de 30%. Et ça, c'est un changement dans la progressivité de l'imposition qui est tout à fait spectaculaire, parce que les revenus du travail seront taxés de façon progressive, mais pas ceux du capital, indépendamment des taux comparés entre revenus du capital et du travail.
Et là, je reviens en termes d'incertitude, on va voir ce qui peut se passer, mon sujet étant d'où viendra la reprise, ça peut constituer un frein, peut-être.
Thomas Grébin,
dernier mot pour vous.
Moi, justement, je voudrais rebondir sur ce que disait Élise sur la loi travail. Je pense justement que ça peut conduire à deux types d'incertitudes. D'une part, en effet, on ne sait pas comment va se passer la mise en œuvre de cette loi travail, et donc il peut y avoir des mouvements sociaux qui, là aussi, c'est quelque chose qui crée de l'incertitude. Et d'autre part, si cette loi travail est mise en place, on peut s'attendre aussi qu'à court terme, une augmentation des licenciements. C'est-à-dire qu'on peut penser que les entreprises, si dans cette optique de flexibilisation, ont un stock de personnes dont elles voulaient se débarrasser, elles pourront le faire grâce à cette loi travail. Donc à court terme, ce ne sera pas forcément positif pour l'emploi. Et en tout cas, ce n'est pas une mesure conjoncturelle qui vise à relancer l'activité à court terme. Donc on verra s'il y a des effets à long terme. En tout cas, à court terme, c'est peu probable que c'est un effet positif sur la croissance ou l'emploi.
C'est la reprise, donc vous le confirmez, mais elle n'est pas si garantie que cela. Et même si les indicateurs sont passés au vert, ce dont on peut se féliciter, il faudra suivre de très très près les réformes qui vont être engagées dès, on le sait, hein, dès cet été, et d'autres encore importantes à partir de 2018. Le président nous a bien dit qu'il souhaitait aller vite. Merci beaucoup à tous les trois pour vos analyses, et on passe à vos chiffres. Et on commence avec celui de Marie Bélan, journaliste aux Échos. Marie, qu'avez-vous choisi? Je crois que c'est dans
Bonjour.
La droite ligne de ce que nous venons de dire.
On reste sur le thème de la croissance et mon chiffre, c'est x2. Et ce serait la réévaluation de la croissance française entre 2006 et 2013, donc il faudrait retenir, si on utilisait des indicateurs jugés plus pertinents que ceux de la comptabilité nationale, selon certains économistes. Alors, je m'explique. De 2006 à 2013, la croissance mesurée par l'INSEE dans l'Hexagone n'a pas dépassé les 0,42% en moyenne sur la période. Mais si les calculs statistiques qui permettent de mesurer le PIB et dont la création remonte quand même à la Seconde Guerre mondiale, hein, je le rappelle. Donc si ces calculs tenaient mieux compte du progrès technologique, il aurait fallu doubler ce chiffre, donc pour atteindre 0,99%. C'est en tout cas la thèse qu'a défendue l'économiste Philippe Aguillon, qui est professeur au Collège de France et qui est bien connu d'ailleurs dans cette émission, dans une étude présentée cette semaine aux membres de l'Association française de sciences économiques. Alors pourquoi arrive-t-on à un différentiel aussi important avec les calculs de l'INSEE, qu'on ne peut pourtant pas taxer d'amateurisme? Alors pour Philippe Aguillon, ce décalage provient de la difficulté à prendre en compte l'innovation dans la mesure du PIB. En d'autres termes, lorsqu'un nouveau produit arrive sur le marché et remplace des produits existants, il est très difficile de prendre en compte les nouvelles fonctionnalités de ce produit innovant et par conséquent d'évaluer l'amélioration du service rendu, mais aussi l'amélioration de la qualité en termes de prix. Ainsi, pour calculer l'inflation, l'INSEE se fonde sur des prix de produits des produits qui ne sont pas remplacés et qui n'ont en réalité plus grand-chose à voir avec le produit innovant lui-même. Si vous comparez un iPhone avec un vulgaire téléphone portable de toute première génération, ça permet de comprendre un peu la limite du calcul, je pense que tout le monde en conviendra. Voilà, pour prendre un exemple concret. Alors, ce qui est intéressant, au-delà du constat, c'est de voir pour calculer le différentiel, comment s'y prend-il? Alors, Philippe Aguillon, lui, est parti de la part de marché des entreprises qui continuent à exister sur la longue période, en se disant, voilà, si cette part de marché baisse dans le temps, c'est au profit des nouveaux entrants, et c'est ce différentiel qui permet de recalculer le vrai taux de croissance du PIB, qui serait donc deux fois plus élevé, je vous le rappelle. Alors, pour les détails du calcul, je vous renvoie donc à l'article de Philippe Aguillon et de son équipe. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi les conclusions qu'on peut en tirer, puisque au-delà du satisfecit que l'on peut avoir de cette réévaluation du taux de croissance, cette étude signifie aussi que nous avons très certainement sous-évalué les gains de productivité qui ont été réalisés sur la période. Et enfin, il faut aussi regarder l'impact sur les prix. Et là, je vais citer Philippe Aguillon, que nous avons interrogé dans les Échos pour cet article. Et il dit, voilà, comme la hausse des prix, qui est aujourd'hui très faible, est surestimée, l'économie serait probablement beaucoup plus en déflation que ce que nous croyons.
Voilà, un beau débat pour économie. Je sais que Daniel Timbaud, qui n'a pas lu l'étude encore complètement, hein, mais avait déjà émis un peu des... Voilà. En tout cas, a bien envie d'aller plus loin. On en reparlera certainement. Vos chiffres, Thomas Grébin, qu'avez-vous choisi?
Alors, Marie parlait de chiffres, c'était multiplié par deux. Moi, ce serait divisé par deux. Alors, en fait, c'est comme le taux de syndicalisation dans les pays de l'OCDE qui a été divisé par deux depuis 30 ans. Donc, c'est un chiffre qui vient des perspectives de l'emploi de l'OCDE qui sont sorties cette semaine. Et donc, aujourd'hui, donc, le taux de syndicalisation dans les pays de l'OCDE, c'est de 17%. C'était le double il y a 30 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'y compris dans les pays scandinaves, dont on parle beaucoup, qui sont un modèle pour beaucoup, ce taux de syndicalisation a par exemple baissé de plus de 15 points au Danemark ou en Suède. On est passé de 80% de taux de syndicalisation à autour de 65%. Ou en Allemagne, perte de 15 points aussi de ce taux de syndicalisation, on est passé de 35% à 20%. Donc voilà, donc c'est une tendance à suivre justement dans les années qui viennent, parce que ça a des impacts sur le marché du travail.
Merci beaucoup Thomas Grébin. Votre chiffre rapidement, Xavier Timbaud.
Alors moi, mon chiffre, il est très grand, c'est 2000 milliards de dollars. Mm-hmm. C'est une opération fascinante. Le gouvernement saoudien, donc le gouvernement d'Arabie Saoudite, veut introduire en bourse l'entreprise Saudi Aramco, qui est l'entreprise qui détient tous les actifs pétroliers du royaume d'Arabie Saoudite. Et la valeur sur laquelle il compte, c'est 2000 milliards de dollars. Alors c'est un chiffre fascinant parce que, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce que va demander l'Arabie Saoudite, c'est de demander au marché de donner un prix aux réserves de pétrole, et donc en particulier de donner un prix à qu'est-ce qui va se passer sur la consommation de pétrole dans les 50 prochaines années en termes de prix, et aussi en termes de est-ce qu'on arrête de consommer du pétrole à cause du réchauffement climatique.
On parle d'incertitude, en voilà de belles.
Et je pense qu'il faudra consacrer une émission à cette question. Parce que
c'est promis.
C'est possible que le marché ne dise pas 2000 milliards, qu'il dise 500 millions.
Merci Xavier Timbaud, désolé, les huileries, on laisse la place, ce sera pour la toute prochaine fois. Le journal est à suivre, le temps de remercier Laetitia Coya, Emmanuel Morse-Duncan pour la réalisation, Laurence Genepin bien sûr, pour la préparation, pour la documentation. Toutes nos biblios seront sur notre site, notamment cette étude de Philippe Aguillon à FCE. Merci aussi aux Échos, représentés par Marie Bélan, et c'est à suivre les informations avec Anne Fauquemberg.